RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Hello, how are you, François?
Oh là là, on est sur du bilingue aujourd'hui.
Oui.
On est sur du bilingue. Oui. Très, très bien. Écoute, malgré ce petit vent, tout va très, très bien. Nous sommes le 25 octobre. Aujourd'hui, je reçois Jeannine Maranin, qui je suis très content de la voir. Alors, en tout début d'émission, à chaque fois, je vais expliquer ce qui s'est passé un 25 octobre. Alors, c'est le jour de la betterave. Je déteste ça, donc c'est pas ma journée.
Quelle horreur.
En 732, il y a eu la victoire de Charles Martel à Poitiers. Alors ça, on l'apprenait, c'était les dates 1515 Marignan, 732 Charles Martel à Poitiers.
On apprend ça à l'école. Hein.
Exactement. Ouais. Alors, je sais pas s'ils apprennent encore aujourd'hui. Hein.
Non.
1722, c'est le sacre de Louis XV. En 1991, c'est le premier vol de l'Airbus A340.
Mm-hmm.
En 2017, Sophia est le premier robot à avoir une nationalité. Elle est saoudienne. Les anniversaires, en 1881, Pablo Picasso était né. C'est les 38 ans de Nawel Madani, c'est l'humoriste et l'actrice française. Non, belge, elle est belge. Et c'est les 37 ans de Katy Perry. Alors, moi, j'aime bien Katy Perry. Hein.
Ouais, il y a aussi l'anniversaire d'Annie Girardot. Elle est partie, mais elle était née en 31, un 25 octobre. Et puis, Georges Bizet aussi, le compositeur.
Ah, bon. Ouais. Décès en 2019 d'Abou Bakr al-Baghdadi, c'était le leader de l'État islamique en Syrie. Ouais. Qui avait été tué par des drones, je crois, américains.
On le dit.
journée européenne de la justice aujourd'hui. C'est le jour du Pays basque, donc un big up à nos amis basques. Mmh. Et c'est la fête nationale du Kazakhstan. Donc une pensée à Borat, le Kazakh le plus connu, malheureusement pour eux. Et bonne fête aux Daria, Crépin et Enguerrand.
Voilà. Il y a aussi Nathalie Simon aussi qui est née en 25 octobre.
Ah, la véliplanchiste, c'est ça?
Ouais, la sportive, ouais. Elle est née en 25 octobre, en 64.
Elle était présentatrice aussi, je crois qu'elle faisait Interville. Hein,
ouais, c'est ça.
Interville, c'est le jeu qu'on regardait avec nos grands-parents.
Ah là 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 là, toute ma jeunesse.
Courrier des lecteurs, donc je rappelle, toujours par mail, par texto, par pigeon voyageur, vous pouvez toujours nous envoyer quelque chose. Voilà, si vous avez un coup de gueule. Nous dire que l'émission est pas mal de temps en temps, ça fait du bien.
Elle est pas mal.
Voilà. N'hésitez pas. Hein, on relaiera le message. Aujourd'hui, je reçois Jeannine Maranin. Jeannine, comment ça va?
Écoutez, je vais très bien. Je suis ravie d'être ici avec vous. Nous avons discuté pendant une demi-heure. Nous avons échangé. Voilà, tout va très bien.
Alors, Octobre Rose oblige. J'ai souhaité vous avoir dans l'émission. Donc, vous êtes la représentante de la Ligue pour le cancer.
De Balagne.
Voilà. Alors ici on parle vrai, hein, donc on va, il y a pas de,
non, il y a pas de tabou,
il y a pas de tabou, il y a rien.
Alors
là pour vous c'est le mois un peu le plus important.
Alors effectivement, le mois d'octobre c'est le mois le plus important. C'est un événement annuel et national. Dans le cadre de la campagne d'information nationale, Octobre Rose de Balagne fait son retour. En raison, pendant cette période de pandémie, nous avons tout arrêté et nous avons organisé une marche dont l'objectif était de sensibiliser les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et de permettre de limiter les conséquences de la maladie. Cet événement doit porter un message pour soutenir les malades et la recherche. Tous avaient revêtu leur tenue rose, synonyme d'espoir. Ces rencontres favorisent l'échange, le partage d'expériences et en quelque sorte briser le silence. Il est à noter que bon nombre de cancers n'ont pu être diagnostiqués pendant cette période. Ces retards risquent d'avoir des conséquences graves, y compris d'autres cancers. Alors donc on parle du cancer du sein, mais il y a quand même le cancer du col de l'utérus ou du côlon. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont élevées.
Alors, il y a aussi, parce que le mois prochain, c'est Movember. Movember, c'est pour les maladies qui sont un peu difficiles à parler pour les hommes, donc notamment le cancer de la prostate.
Oui, absolument. Là, il y a une recrudescence qui touche.
Tout ce qui touche en dessous de la ceinture pour les hommes, ça devient compliqué. Donc, je vous conseille. Alors, le petit signe pour Movember, c'est les hommes doivent se laisser pousser la moustache en soutien. Donc moi, à partir du 1er novembre, j'arrête et je me laisse poustache, c'est-à-dire pousser la moustache.
Tu laisses pousser la moustache
en guise de soutien.
Attention, oui, en guise de soutien. Hein,
oui, voilà.
Fourni, hein, attention, non. Alors, c'est aussi le mois de novembre, On va en parler, puisque là, Janine, vous allez être directement sollicitée. Le mois sans tabac.
C'est le mois sans tabac.
Voilà. Moi, je suis fumeur. Donc, je vais m'arrêter de fumer le mois de novembre. Je l'annonce.
Oui, même pas
donc, le mois sans tabac commence. Alors, donc, nous allons rappeler la cause et aussi de récolter des fonds à Calvi. Le 17 octobre. Non, là, je suis le
4 novembre.
Le 4 novembre, voilà. Le 4 novembre. Donc, nous allons avoir un tabacologue qui vient régulièrement tous les ans pour parler du cancer, donc pour inciter les personnes à arrêter de fumer. Donc,
alors, je rappelle quand même, le tabac, c'est poumon, langue.
Absolument. Voilà,
parce qu'il n'y a pas que les poumons qui peuvent être impactés.
Non, la gorge aussi.
Il y a le cancer de la langue, de la bouche, etc.
La gorge,
non, c'est quand même quelque chose.
Il faut savoir que le tabac et l'alcool sont...
Et l'alcool aussi, vous avez raison d'ajouter l'alcool.
Le tabac et l'alcool sont à l'origine de 80% des cancers. Hein.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
À haute consommation.
Hein. Les deux, ça fait un sacré cocktail explosif.
Bon, ça va, moi j'ai qu'un vice, là, c'est bon.
C'est déjà ça.
Alors, donc, le 4 novembre, je recommence, le tabacologue M. Christian Sien viendra pour une journée de sensibilisation et le 15 novembre aussi, en présence d'un tabacologue, il va proposer plusieurs méthodes pour arrêter de fumer. La Ligue contre le cancer de Balagne fonctionne très bien grâce à ses bénévoles et qui sont présentes sur tout le terrain. Mais alors ce jour-là, tout le monde est là pour accueillir le tabacologue et accueillir les gens qui vont venir se faire tester. Et ils sont nombreux.
Alors, moi, je vais venir.
Oui, c'est très bien, je vous attends.
Donc, le mois sans tabac, j'annonce, celui qui me voit avec une cigarette en ville peut me dénoncer sur les réseaux sociaux. Voilà, comme les réseaux sociaux, c'est la propension à dénoncer et tout. Alors, je les autorise ce coup-là à dire, j'ai vu François avec une cigarette au mois de novembre. Janine,
oui.
On va parler un peu de votre parcours qui est quand même... parcours de vie qui est quand même assez incroyable.
Oui.
J'ai mené mon enquête, attention, parce que quand je veux savoir...
Mais j'ai vu ça quand même, vous en savez beaucoup plus que je pensais. Hein.
Quand je veux savoir quelque chose, trouve les informations.
Non, mais c'est bien, c'est tout à votre honneur.
Alors, parcours incroyable. D'abord, première question, si je dois vous demander quel est le premier souvenir calvaire, comme ça, qui vous vient en tête, qu'est-ce qui vous vient tout premier?
Alors, en tout premier, c'est quand on est arrivé en Corse. Voilà, donc, arrivé à Calvi. Mon mari, Calvé, pour vous dire qu'il était heureux de se retrouver chez lui où il est né. Ça a été un bon souvenir. Bon, des souvenirs, il y en a tant et plus. Bon, c'est l'époque où j'étais déléguée du procureur, où je suis arrivée donc à Calvi pour prendre ce poste. Et tout se passe bien. Donc, j'ai passé des années, 12 ans, donc, au tribunal de grande instance de Bastia. Et je dois dire que je suis venue grâce au procureur M. Fanny, qui est actuellement procureur général du tribunal de grande instance de Bastia.
Alors, parcours incroyable, je le disais, parce que, alors, vous avez le diplôme de dactylo, et dans la foulée, vous vous engagez dans l'armée. Alors là, c'est pas commun puisque c'était dans les années 60. C'était hier, Janine. Hein,
c'était hier. Non, là, vous me rappelez.
C'était dans les années 60, mais 37 ans au sein de l'armée. Alors c'est un milieu qui est très masculin.
Qui est très
et
masculin.
À l'époque, c'était
j'ai réussi à m'intégrer. Alors je dois vous dire
que vous étiez une jeune femme, 18 ans, vous m'avez
18
dit.
18 ans, même pas 18 ans. Alors donc j'étais intégrée parce que j'étais pupille de la nation, parce que mon père, qui était médecin, mort à la guerre, donc j'étais favorisée pour rentrer. Alors je voulais rentrer, comme je vous l'ai dit. Comme convoyeuse de l'air. Donc, pour être convoyeuse de l'air, il fallait avoir le diplôme d'infirmière diplômée d'État. Là, je me suis battue pour pouvoir prendre une autre filière, en fait, qui m'a très bien réussi.
Donc, 37 ans au sein de l'armée, vous quittez grade de major. Ce milieu masculin, comment je pourrais dire, c'est poste à...
Responsabilité.
Ah, oui. Est-ce que ces 37 ans se sont passés facilement?
Se sont passés, c'est quand même difficile quand vous rentrez dans l'armée, que vous êtes toute jeune, de faire sa place au milieu des hommes. Ça a été très difficile. Ce qui m'a quand même permis d'avoir un caractère bien trempé maintenant. Voilà, donc j'ai avancé lentement, mais sûrement, ce qui m'a permis de gravir les échelons normalement.
Découverte de la Corse en 71.
Oui, tout à fait.
Alors, cette arrivée, elle se fait à Solenzar, c'est ça?
Elle se fait à Solenzara, là. Donc, je suis heureuse d'être à Solenzara parce que c'est une base que je n'oublierai jamais.
J'y ai passé, autant, hein.
Voilà, j'y ai passé quand même 17 ans à cette base de Solenzara où j'étais très, très, très heureuse, où j'occupais le poste au commandement avec les officiers supérieurs. Et ça s'est très, très bien passé. Roch, mon mari, était militaire également. Voilà, donc il a quitté l'armée bien avant moi parce que, il était militaire. Parce qu'il fallait être militaire, voilà, donc, mais pas de conviction comme moi quand même, hein, parce que moi j'ai fait une carrière avec des convictions, je me suis battue, je suis quand même allée au Tchad, en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, je suis partie en Australie comme, voilà, donc j'ai bourlingué et je suis heureuse du parcours que j'ai pu faire.
Alors quand même, dans ces 37 années, il y a des moments assez importants et assez incroyables. Il y a l'accueil des otages français du Liban, donc Hoffmann, Fontaine et Carton.
Tout à fait. C'était de nuit, donc on les attendait tous les jours. Alors Madame Kaufmann donc avait pris la parole et tous les jours on comptait, puis ça passait quand même.
Alors pour rappeler aux gens, ils ont été retenus combien de temps ?
Quatre ans, voilà. Et donc tout le monde attendait. À un moment donné, quand l'issue a été fatale, on savait que ça allait se passer une nuit. Mais on ne savait pas quelle nuit. Et une nuit, effectivement, le colonel Landwehr, à l'époque, qui était le commandant de la base de Solenzara, a appelé en disant « ça y est, ils sont là ». Alors ça a été une émotion, même encore, j'ai l'émotion qui remonte de les voir arriver. Ils étaient dans un état de fatigue, il a fallu on a pris rendez-vous chez les médecins, il a fallu...
Est-ce qu'on y croit pendant 4 ans qu'on est sur le dossier? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas...
Vous savez, moi qui retrouvais Marcel Fontaine en Australie, qui est parti en même temps que moi, il a eu du mal à se rétablir. Il a eu du mal, voilà, donc... on ressort pas d'une d'être enfermé comme ça pendant 4 ans. Ils étaient enfermés dans des cercueils, vous vous rendez compte? Alors ils ont quand même vu leur ami mourir à côté, qui est mort là, qui s'appelait mort d'un cancer. Il a agonisé et ça fait que ça les a marqués tous les trois.
Attaché à la défense à l'ambassade de France à Canberra en Australie,
comme diplomate.
Alors là, c'est assez incroyable. Elle se fait comment la bascule? Comment ça vient sur le tapis, cette proposition là?
Mais c'est-à-dire qu'à la suite de... j'étais quand même 17 ans à la base de Solenzara, j'étais connue, j'avais un poste qui était haut placé. Et jusqu'au jour où les otages sont arrivés, ça m'a valu quand même, ça m'a propulsé quand même. Et c'est là que le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Anata, qui était mon patron, m'a proposé. Alors il m'a fait pas mal de propositions. D'abord c'était le Nigeria, après ça a été...
On est mieux en Australie.
Et ça a été... Moi, mon rêve, c'était de ne pas partir là. Mais en dernier, ça a été l'Australie. Voilà, donc ça a été l'Australie. Un pays, fantastique.
Alors, l'expatriation, quand on n'a pas l'habitude, même si vous aviez fait des actions humanitaires au Tchad, en Nouvelle-Calédonie, elle peut être mal vécue. Vous l'avez vraiment bien vécue.
Ah, très bien. Très, très bien. Je peux vous dire qu'au Tchad, je voyais beaucoup d'hommes pleurer et repartir. Mais Janine Maradinqué, elle est restée pendant ces 6 mois. Donc, elle n'a pas bougé. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on accepte de partir comme ça, c'est qu'il faut accepter et puis tenir le coup quand même, parce que c'est difficile.
Alors, je vais faire un petit rapprochement parce que c'est une île continent.
Oui.
Est-ce qu'en termes de, puisque vous avez fréquenté les Australiens, est-ce que vous trouvez des similitudes de comportement avec les Corses finalement? Est-ce que le fait d'être insulaire, ça se ressent?
Ça se ressent. On a été pris en charge tout de suite. Donc à l'ambassade, quand vous arrivez, vous avez une majorité quand même de Français qui nous ont accueillis. Voilà. Et à Calvi, je me sens bien à Calvi parce que les Calvés me soutiennent. J'ai vu pour la marche rose tous les Calvés qui étaient là avec les enfants, les petits-enfants. Ça a été quand même que du bonheur.
92. Retour à Aix. Alors, retour à Aix en tant que chef du bureau de personnel de réserve à Aix-en-Provence, qui ensuite vous emmènera en 2009 au poste de délégué du procureur d'Aix-en-Provence.
Oui.
Là, c'est pourquoi? Parce qu'on se dit, allez, une nomination dans une ambassade, quelque part, c'est un peu le bâton de maréchal d'une carrière.
Tout à fait, d'une carrière qui m'a permis d'avoir des entrées plus facilement, j'avoue.
Mais du coup, on ne se dit pas, après, ça a moins de saveur. Non, vous ne vouliez pas lâcher ?
Ah, moi, je n'ai pas lâché. Je n'ai jamais rien lâché. D'ailleurs, là, en ce moment, je ne lâche rien et je lâcherai quand j'en aurai envie.
On va en parler dans les questions qui fâchent.
Oui, mais je sais les questions qui fâchent. Je sais ce que vous allez poser comme question.
2010. Retour en Corse, donc là, auprès du procureur de Bastia.
Voilà, donc le procureur. Alors, c'est-à-dire que là, j'avais fait une demande, parce que quand les vacances, au mois d'août, j'ai appris qu'il y avait un poste qui allait être créé donc à Pontelletsch, c'est-à-dire que c'était pour éviter que les gens des petits villages aillent à Bastia, c'était beaucoup le plus facile.
Créer des points d'accès aux droits. Voilà.
Alors, ce poste, comment je l'ai eu ? Alors, un jour... Roch Maraninki de Calvi, quand il a appris qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à Pontelletsch, il m'a un peu poussé à faire ma demande.
On peut profiter de madame.
Voilà, donc il a profité et j'ai voulu lui faire plaisir parce qu'il a été quand même toujours présent à mes côtés. J'ai fait une lettre au procureur, donc à monsieur Fanny, une lettre parmi tant d'autres, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lettres qui avaient été faites par beaucoup de gens, donc une lettre simple. Et il m'a demandé de venir deux ou trois fois pour me rencontrer. Et puis là, bon, bah, écoutez, ça s'est fait le plus naturellement possible, jusqu'au jour où on m'a annoncé que j'étais affectée au poste de délégué du procureur à Pontelletsch, à Bastia, détaché à Pontelletsch.
Alors c'est à ce moment-là où vous commencez votre engagement contre le cancer.
Oui, tout à fait, tout à fait.
En 2010, avec la création de l'Escale League.
Oui.
Et ensuite...
Avec le docteur Florence Santini-Gomez et le professeur Schneider, puisqu'on a créé cette escale qui a été inaugurée. Et à l'époque, bah écoute, j'étais seule. Alors depuis, il y a pas mal d'associations...
Pourquoi le combat du cancer ? Pourquoi le combat du cancer, ça aurait pu être... méchant ce que je dis, ça aurait pu être les chiens, ça aurait pu être...
Non, mais le combat du cancer, moi j'ai une amie qui est morte du cancer, voilà, qui est morte du cancer. Bon, ça ne m'a pas donné l'idée de me lancer dans le cancer, voilà. Donc, mais Florence Santini-Gomez, bon, qui m'a rencontrée, qui était gynécologue à l'époque... Elle m'a dit, je te verrais bien, si on pouvait monter. Et de là, elle est partie. Mais quand je suis arrivée ici, je ne pensais pas du tout m'investir dans le cancer. Donc, c'est devenu ma passion maintenant. Et voilà, de m'occuper des malades, de les suivre, bien souvent jusqu'en fin de vie. Ça, je peux vous dire que je l'ai fait. Et pendant la pandémie, alors qu'il était interdit de sortir à cause de la Covid, j'ai bravé ces interdictions pour aller les voir, leur porter à manger, un mot simple, un gâteau. Voilà, je suis quand même sortie.
2012, responsable donc de la Ligue contre le cancer en Balagne. On va parler un petit peu de ce que c'est, hein, parce que peut-être que les gens ils s'imaginent pas. C'est chronophage.
C'est très difficile.
C'est très difficile parce qu'il y a la lourdeur administrative, les prises de rendez-vous. Le meilleur hôpital, ça reste quand même. Alors. Je ne vais pas dénigrer les praticiens insulaires, mais ça reste quand même vol de Marseille à 7h du matin à Calvi, hein, ouais. Donc qui a été dénigré un petit moment pendant le premier confinement. Comment on se lance là-dedans et comment on franchit toutes ces lourdeurs,
c'est un travail de tous les instants. Moi, je peux vous dire que la Ligue contre le cancer, c'est tous les jours. Tous les jours. Voilà, donc il faut faire les dossiers. Moi, je reçois les malades, je vais les voir à domicile, je les accompagne.
Il y a de la détresse aussi
humaine. Ah oui, détresse. Bien souvent, moi, je suis en détresse de voir ces gens malades et souffrir. Moi, je parlerai de José Canave, que j'ai suivi jusqu'en fin de vie. Je l'ai suivi, donc on s'en est occupé. J'ai été malheureuse quand il est parti, parce qu'il l'a tenu quand même pendant pas mal de mois. Et puis voilà, donc... Non, le cancer, c'est difficile. Ou alors, il y a des cancers qui se... Par exemple, le cancer du sein, on arrive quand même à s'en sortir s'il est pris à temps. Voilà, c'est pour ça que Octobre Rose... C'est le mois du cancer du sein, c'est pour prévenir les femmes qu'il faut se faire dépister.
Oui, parce qu'au-delà de l'accompagnement, de l'aide les papiers administratifs et tout, il y a quand même de la prévention.
Il y a de la prévention. Alors moi, je suis très... je suis de plus en plus confrontée à l'accompagnement des malades. Fort heureusement, j'ai un soutien de mes amis, les professeurs Fabrice Barlesi et Dominique Barbolosi. Quand il y a un cas qui est quand même très grave. Voilà, donc personne ne me demande. Le professeur Barlesi, qui est directeur de l'hôpital Gustave Roussy, directeur général, je peux lui téléphoner et lui envoyer des malades. Donc c'est quand même réconfortant.
Donc il y a aussi tout ce qui est prévention avec la mise en place de conférences.
Ben, il y a des, ben, dernièrement, les professeurs sont venus faire une conférence, il y avait quand même du monde. Ils viennent souvent, ils viennent très très souvent. D'ailleurs, le professeur Barbolosi, bien souvent, il est à Porto Vecchio. Il sillonne toute la Corse pour porter la bonne parole.
La création d'événements, on va parler de cette pandémie où on s'est retrouvé avec du coup le manque de lits cumulé des différents présidents. Voilà, on va pas en stigmatiser un plus que les autres, et on s'est retrouvé avec un arrêt de l'activité de certaines activités.
Total.
Des stades vraiment. De cancer découverts tardivement
Donc
ça, vous le ressentez.
Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, parce qu'ils n'ont pas été suivis en temps et en heure. Hein. Ça, c'est. Mais il y a beaucoup de malades qui n'ont pas osé sortir pendant la pandémie de peur d'attraper la Covid. Il y a eu la peur aussi, voilà. Donc,
Tout ça fait un bouillon de culture un peu étonnant.
Donc, actuellement, il y a une recrudescence de cancer, que ce soit le cancer du sein, du col de l'utérus ou du côlon.
Alors, Mavizi, vous aviez des chiffres. Parce que je pense que les gens...
Les chiffres, ce sont un médecin qui me les a donnés. Hein, propre initiative. Hein, voilà. Donc, chaque année en France, en chiffres, 58 000 femmes développent un cancer du sein en moyenne chaque année en France, contre 30 000 en 1990, pour vous montrer la recrudescence.
C'est peut-être dû aussi à l'espérance de vie qui augmente.
Il y a peut-être l'espérance de vie, je suis d'accord. Alors, 80 cancers du sein sont dépistés dans l'île. En moyenne, chaque année, 34% de dépistages ont été effectués depuis le début de l'année en Corse, dans la catégorie des femmes âgées de 50 à 74 ans.
Mais il faudrait le faire un peu plus tôt.
Et voilà, exactement. Mais c'est-à-dire que les femmes, elles doivent quand même se prendre en charge aussi. Elles savent, voilà, Octobre Rose, on n'a pas arrêté de leur dire qu'il fallait se faire dépister, qu'un dépistage précoce pouvait sauver une vie ou alors avoir... un accompagnement moins difficile, parce que c'est quand même difficile un accompagnement quand vous avez la chimio, quand les femmes perdent leurs cheveux, etc. Donc c'est pas
Après il y a des cancers qui sont dans l'intellect des gens un petit peu tabous. Je vais parler de la prostate, cancer de l'utérus, colorectal. Donc là aussi, je pense que c'est les gens. Est-ce que c'est les gens qui n'en entendent pas parler ou n'y pensent pas, ou est-ce que c'est les gens qui ont peur au fait d'aller se dépister et de se retrouver dans des situations.
Alors là, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller se faire dépister, et à force d'attendre, quand ils vont se faire dépister, c'est un peu trop tard. Voilà, ça, il y a la peur.
Moi, j'ai 40 ans.
Il y a la peur du diagnostic. Il y a la peur du diagnostic, et effectivement, les gens reculent de plus en plus à se faire dépister.
Alors, du coup, il y a aussi, du fait de cette activité, cette suractivité, contre le cancer, vous faites partie aussi du directoire de l'hôpital de Calvi.
Tout à fait, où je suis intégrée depuis quelques années. Voilà,
Donc là, ça consiste en quoi, très précisément, votre rôle au sein de l'hôpital de Calvi?
C'est-à-dire que d'abord, je suis la présidente de l'unité soins longue durée, voilà, c'est-à-dire les gens qui restent à vie à l'hôpital, et puis malheureusement, bien souvent, voilà. Mais ce sont des gens que j'ai retrouvés avec grand plaisir, parce que je ne les avais pas vus depuis très très longtemps. Et dernièrement, avec le père Valéry, nous avons fait une messe. On les a tous retrouvés, et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien, très très bien. Ça a été que du bonheur. Ils vous reconnaissent un petit peu. Bon, après, le monde après, ils ne vous reconnaissent plus. Mais ils ont suivi la messe, ils ont chanté. Alors, écoutez, ça a été une journée extraordinaire. Voilà, je suis...
Alors, parce que des fois, on souffre de se dire, parce que c'est vrai que quand ça commence à devenir compliqué, il faut aller à Bastia, voir sur le continent. Hein, on a des exemples autour de nous concrets. L'hôpital de Calvi souffre un petit peu de se dire, ouais, c'est un peu l'hôpital de brousse, l'hôpital de campagne. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'hôpital de Calvi, il a le mérite d'être là
et
qu'il sauve, ah ben oui. Et qu'il sauve des vies.
Ah oui, moi je peux vous dire que l'hôpital de Calvi sauve des vies. Combien de fois il y a eu des évacuations sanitaires cet été pour aller ne serait-ce à Bastia ou alors après d'être transporté de Bastia à Marseille, etc. L'hôpital de Calvi fait un travail immense, immense. Moi je suis admirative et je dis merci à notre directrice Danielle Bourselet, à Charles Ricouart, qui font un travail extraordinaire. Et tout le personnel, je vous dirais, bon, je prends les deux principaux parce que voilà, mais tout le personnel qui entoure autour l'hôpital, ils sont extraordinaires. Les aides-soignantes, il faut voir comment elles s'occupent.
Avec des moyens, c'est les dotations de l'État hein, aussi, avec des moyens moindres.
Les aides-soignantes à l'écoute, elles ont un travail quand même difficile. C'est quand même difficile s'occuper de personnes âgées.
Jeannine, on va aborder une partie de l'émission. C'est les questions qui fâchent.
Non, moi, rien ne me fâche. Rassurez-vous, je m'y attends.
Alors, j'ai appris avec surprise, puisque je pensais qu'on n'avait pas tant d'écart que ça. Votre âge, on ne va pas le dire.
Oui, j'avance c'est... en âge, mais je suis toujours en forme, là, pour l'instant.
Je suis là pour le confirmer. on se dit quand même que... c'est une activité qui est compliquée.
Ah, c'est tous les jours.
C'est tous les jours. Oui. À un moment donné, il va peut-être falloir que vous levez le pied. Est-ce que vous avez anticipé le passage de relais ou pas ?
Alors, anticipé, j'y ai pensé. Mmh. Ça est évident que j'y ai pensé. Pour l'instant, je suis en forme. De toute façon, lorsque je quitterai la Ligue contre le cancer, il y aura quelqu'un que j'aurai choisi et qui sera dans la même lignée que moi. Voilà, donc je quitterai ce poste, je ne peux pas vous dire quand, mais sachez que j'y ai pensé. En me regardant dans la glace le matin, je me suis dit, ma vieille, tu vieillis, il est temps que tu t'en ailles.
Après, deuxième question qui fâche, il y a eu dans les années 90 des problèmes avec certaines associations, voilà, des représentants d'associations qui sont partis avec la caisse, qui ont été condamnés, tout ça. Est-ce que ça, vous en avez souffert en tout cas d'avoir à vous justifier quand il y a des dons, quand il y a des choses, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu freinés justement par ces affaires-là, de venir s'impliquer ou même de
participer. On en a
souvent
entendu parler là, de l'affaire Cross-Marie, effectivement, qui avait détourné beaucoup d'argent. Bon, ça a fait du mal à la Ligue, effectivement. Mais il faut savoir que la Ligue contre le cancer, elle a un commissaire aux comptes à Paris. Les comptes sont... on ne peut pas tricher. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, je m'occupe de l'argent. Voilà, et je sais que l'argent, bien souvent ce sont des chèques, l'argent que récolté des marches roses, donc je vais aller le porter, mais je suis toujours avec quelqu'un quand on compte l'argent, là, je ne suis pas seule, voilà. Donc il y a Doumé Spinozzi qui est là, qui vient compter avec moi, parce que je suis sûre qu'il y en a peut-être, qui sont peut-être des gens, des personnes malveillantes. Quand elle vous donne de l'argent comme ça, de la main à la main, elle se dit, est-ce qu'elle n'a pas mis ça dans sa poche? Eh bien, je dis non à cette personne. Je n'ai jamais mis de l'argent de ma poche. J'ai plus donné de l'argent à la Ligue, parce que je vais vous parler d'une petite anecdote d'une femme que, dernièrement, qui était très, très fatiguée, qui n'avait pas d'argent. Je lui ai donné 100 € de ma poche. 100 € de ma poche, et je lui ai acheté des sous-vêtements. Voilà, donc...
Donc... En tout cas, on peut s'enlever ça de la tête concernant la Ligue pour le cancer. Il y a un commissaire aux comptes.
La Ligue, elle
voilà, c'est cadré. La deuxième chose, c'est la multiplicité des associations. Est-ce que ça joue pas en défaveur justement de votre action? Les gens se disent non, mais j'ai déjà donné à cette association-là pour le cancer. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. On ne sait plus trop s'y retrouver.
C'est-à-dire qu'actuellement, moi, quand je me suis installée, j'étais seule. Et là, depuis, ça a fleuri tout le tour, là, des associations. Voilà, donc,
parce que vous avez connu la période où parlez du cancer.
J'étais seule.
Moi, je me souviens, j'ai une de mes idoles, c'est Pierre Desproges. Qui n'avait pas communiqué dessus, pourtant qui était atteint, qui a fait un sketch dessus, à une époque où c'était tabou de le faire. Donc vous avez connu la période où c'était tabou. Aujourd'hui, le cancer, on en parle quand même un peu plus libérée.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui veulent s'occuper du cancer, parce que le cancer, c'est quand même une chose sérieuse. Moi, comme je vous l'ai dit, à Aix-en-Provence, j'ai été prise en main par des professeurs pendant une année. Voilà, j'ai terminé aux soins palliatifs. Et là, je peux dire que quand je suis sortie une année après, je savais ce qu'il fallait faire. Voilà, donc on ne peut pas.
S'improviser.
Alors moi, voilà je n'en veux pas à ces personnes, qu'elles le savent. Mais voilà, mais il faut savoir quand même que la Ligue contre le cancer est nationale et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec ces associations. Alors bon, les associations, je ne leur en veux pas, mais ça me gêne quelque part. Voilà, ça me gêne parce que elles parlent souvent de la Ligue contre le cancer, de la Marido, voilà.
Et donc, puis ça peut court-circuiter aussi. Voilà.
Donc les gens font un amalgame entre la Ligue contre le cancer, certaines associations dont je ne citerai pas les noms. Voilà, dernièrement, il y a eu un repas, je sais pas, vous avez vu chez Charles, là, donc bon, le repas, c'était très bien, mais combien de gens m'ont téléphoné pour réserver une place? Alors je leur ai dit, je suis la Ligue contre le cancer, je ne suis pas cette association. Voilà, il y a un amalgame et ça me, je vous dirais que ça me dérange aussi.
La dernière chose, c'était, il y a eu un personnage qui a marqué un peu les années 80-90 en France, qui est décédé récemment, c'est Bernard Tapie.
Bernard Tapie, voilà.
Alors
tout
après,
à fait.
Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est quand même quelqu'un qui a.
Je l'ai soutenu.
Qui a marqué un petit peu sa période, tant au niveau sportif que de réussite sociale, après les affaires, tout ça, la politique. Est-ce qu'une personne comme ça, aussi médiatique, médiatise son cancer, aille devant les journaux télévisés pour faire de la prévention, pour expliquer par quelle phase il passait, est-ce que ça vous aide que des VIP, des gens très importants, soit en totale transparence vis-à-vis de ça.
Tout à fait. Alors, le Bernard Tapie a été vraiment transparent du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai écouté sa dernière interview parce qu'on ne l'a plus revue. Il a quand même raconté ce qu'il avait passé. Bah, bon, ça a été quand même difficile pour lui. Mais il a été d'un courage extraordinaire. Il a expliqué qu'il fallait se soigner. Il n'a pas pris les plus grands médecins. Il a été dans les hôpitaux tout à fait lambda. Et il a été très bien soigné. Mais malheureusement, il arrive un moment où le cancer, eh ben, on ne peut plus rien faire. Et là, ils ont essayé de tout faire pour le sauver. Et voilà, il est arrivé en fin de vie, et c'est regrettable parce qu'il a fait quand même beaucoup de choses, Bernard Tapie.
Alors, est-ce que ça permet, via ce faisceau-là, justement, de pouvoir parler à des gens, de dire, ben, regardez, personne n'est à l'abri, même les gens puissants, entre guillemets.
Ah, mais tout à fait, même les gens puissants, mais fort heureusement qu'il n'y a pas que les pauvres et tout ça qui sont... Non, là... Devant Dieu, tout le monde est égal. Voilà, donc c'est très bien. Donc Bernard Tapie, il a su expliquer les derniers moments de sa vie et il les a bien expliqués. Je pense que les gens qui l'ont écouté ont dû s'imprégner quand même du courage de cette personne et des paroles qu'il pouvait prononcer qui étaient quand même très fortes.
On va passer aux questions flash, c'est la fin de l'émission.
Dommage.
Ah oui, dommage, même pour moi. On va passer sur les... C'est des questions flash, alors là, il ne faut pas trop réfléchir, il faut dire la première chose qui vous vient à la tête. Si vous étiez une qualité, quelle serait-elle?
Si vous étiez, pardon?
Une qualité.
Alors moi, je suis une battante. Voilà, une battante, tout le monde le sait, et avec un foutu caractère bien trempé, mais avec une grande gentillesse quand même. Voilà,
Un défaut.
Un défaut, disons que j'ai mauvais caractère peut-être, là je pense que tout le monde doit s'en rendre compte, mais enfin bon, je me bats pour une bonne cause en fait.
Est-ce que vous avez un héros de la vie réelle ou de fiction qui vous suit depuis longtemps?
Un héros de fiction.
Ou de la vie réelle, hein. Ou de la vie réelle, hein, quelqu'un que vous affectionnez particulièrement?
Alors, quelqu'un que j'affectionne particulièrement, je vous dirais, c'est Charles Ricouart, qui depuis pas mal d'années me suit. Ce matin, il m'a téléphoné de bonne heure. Il a toujours une voix égale, gentille. Ah non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Ce que vous détestez le plus chez l'homme?
La personne qui est imbue de sa personne, qui écrase les autres, ça, on en rencontre bien souvent. Cela, je les déteste, par contre.
La chose dont vous êtes le plus fier?
Alors, le plus fier, c'est d'avoir épousé Roch Maranin, qui, en 62, nous allons avoir 60 ans de mariage l'année prochaine.
Ah, c'est les noces de quoi, 60 ans?
Alors, je vais le lui dire, je pense que c'est de diamants.
Oula voilà.
Non, je ne sais pas si c'est vrai. De diamants.
On va dire que c'est diamants.
C'est quelqu'un qui m'accompagne toujours, qui est toujours à l'écoute, qui me défend. Voilà,
sans lui, il n'y aurait pas eu la carrière que vous auriez faite.
Sans lui, j'aurais fait ma carrière, ça, sans problème. Non, lui, il est là, il est présent, mais moi, je me suis battue toute seule pour ma carrière. Hein, voilà, parce que lui, il a été militaire.
Mais... Il s'est quand même effacé à certains moments.
Ah oui, parce que...
Il y a des hommes qui n'auraient pas, osé.
Ah, ils n'auraient pas osé, mais c'est-à-dire que, bon, quand vous engagez dans l'armée, vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez partir en détame, que vous ne pouvez pas refuser. Voilà, j'avais les enfants qui étaient jeunes, il a assumé, très bien.
Alors là, c'est la question un petit peu qui va me gêner de le dire, mais bon, est-ce que vous avez une insulte préférée qui vous échappe de temps en temps quand vous énervez? On peut le dire.
Moi, je dirais espèce de connard.
Est-ce que vous avez une phobie?
Une phobie. Alors, je suis maniaque.
Maniaque,
alors, tout ce qui est dossier, voilà, tout ce qui est dossier, et à la maison aussi, parce que je suis quelqu'un qui est capable de me lever à 5 heures du matin, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, aux grandes dames de Rock, parce que Rock, je fais trop de bruit, ça c'est sûr, mais voilà, on arrive l'année prochaine, on va fêter nos 60 ans de mariage, voilà.
Magnifique. Un péché mignon,
mais j'aime un peu le vin, voilà, donc j'aime le vin, le bon vin.
Et une question qui est intéressante, parce que vous avez dit que vous étiez pupille de la nation.
Oui.
Si vous pouviez revenir en arrière et parler à la petite fille que vous étiez à 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez?
Ben, je lui dirais que je suis fière d'avoir parcouru, parce que vous savez, j'ai vécu en Dordogne, c'était pas un petit village qui s'appelait Le Buisson. C'était pas folichon, voilà, j'ai fait mes études à Sarlat, au collège La Boétie. Il fallait que je prenne la Micheline tous les matins. À l'époque, j'avais pas de voiture. Ça a quand même été difficile pour moi. J'étais élevée par ma grand-mère, voilà, donc c'est ma pauvre grand-mère qui m'a élevée.
Et qu'est-ce que vous lui diriez donc du coup à cette petite fille, si vous pouviez lui parler, lui dire deux mots?
Eh ben, je lui dirais que je suis fière d'avoir réussi ce que j'ai réussi aujourd'hui.
Donc de maintenir le cap. De maintenir le cap.
Oui, le cap, oui, je le tiens, parce que avec je le tiens, François, sans problème.
La dernière question, après on va se quitter, elle concerne la nomination, moi, par contre, je suis bordélique, hein. C'était concernant la nomination en tant qu'officier national de l'Ordre du Mérite. Concernant votre engagement pour aller contre le cancer.
Et pour l'hôpital aussi.
Voilà. Quand ça vient, c'est quoi? C'est une satisfaction, c'est se dire j'ai pas fait tout ça pour rien.
Submergée par l'émotion d'ailleurs, parce que c'était le général Puga que je connais, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Normalement, cette nomination aurait dû être la Légion. La Légion d'honneur. Voilà, donc il y a mon dossier qui s'est perdu dans les méandres je ne sais où, enfin toujours est-il que voilà, c'est le général Puga qui a retrouvé mon dossier, et donc bon, il n'a pas pu faire autrement, mais j'étais très heureuse d'être décorée par lui, très très heureuse, c'est oui. une grande satisfaction.
Donc je rappelle quand même que le 4 novembre, ça c'est l'événement le plus près.
Ah voilà, tout à fait, voilà,
le 4 novembre, Aspar Kaenzad. Enfin, celui du rond-point du karting. Hein,
oui, tout à fait. Tout
celui
fait,
du rond-point du karting. Ouais. Il y a la journée sans tabac.
La journée sans tabac qui va commencer de 10h à 17h avec notre Christian Saint, donc tabacologue. Donc nous serons avec lui parce que bon, je voulais quand même, avant de terminer, rendre hommage à mes bénévoles qui m'accompagnent. J'ai une très très bonne équipe. Très bonne équipe. Et j'ai et en plus, je vais avoir une équipe qui va se renforcer. Voilà, donc je ne le dis pas pour l'instant. Voilà, donc un officier de la Légion, donc militaire, c'est très bien. Deux personnes qui m'ont vu donc à Octobre Rose, donc à Notre-Dame de la Serre, et qui sont venues spontanément vers moi. qui croient en la Ligue contre le cancer. Donc, j'ai récupéré, donc, un, c'est un ancien des tribunaux, une des hôpitaux. Voilà. Donc, on aura une équipe de 12 personnes.
Donc, la nébuleuse se...
La nébuleuse, voilà, tout à fait, tout à fait.
Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Est-ce que vous avez un remerciement ? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire ? Quelque chose à annoncer ? On a parlé de la journée sans tabac, on a parlé de l'association qui va prendre encore un peu plus de poids. Est-ce que vous avez quelque chose à... Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose ?
Non, mais écoutez, pour l'instant, moi, j'avance. Voilà, j'avance. Et puis, au fil des jours, eh bien, je découvre que je peux faire beaucoup d'autres choses. Voilà, donc, pour l'instant, c'est à l'étude. Je ne peux pas en parler encore. Donc, par contre, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, des perruques remboursées par la sécurité pour les femmes atteintes du cancer. Voilà, donc ça, j'ai oublié de le dire. Perdre ses cheveux moralement, c'est la plus difficile à accepter pour une femme. C'est une épreuve traumatisante. Donc, je me suis battue avec une coiffeuse pour qu'elle ait l'agrément pour le remboursement des perruques par la sécurité sociale des personnes atteintes d'un cancer, qu'elle n'ait pas avancé de l'argent. Parce que difficile, des fois, c'est difficile pour elle d'avancer de l'argent. Donc,
on habite à Calvi. Le coût de la vie est déjà assez...
Le coût de la vie est très, très élevé. Et là, je suis contente d'avoir pu réussir. Voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié parce que j'ai essayé de...
D'être factuel, parce qu'on a tous les deux une propension à parler. Donc,
voilà, j'aurais tellement de choses encore à vous dire, mais on se reverra.
De toute façon, SSC, elle sera toujours à vos côtés pour relayer les événements et pour vous donner la parole. Ça, vous savez, vous êtes chez vous. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez besoin de faire passer un message. On est là.
Vous savez qu'à chaque manifestation, je porte à manger aux gens qui sont nécessiteux. Ça, vous le savez.
Je le sais, puisque je l'ai vu.
Voilà, vous l'avez vu. Et dernièrement, c'est pareil. Donc, j'ai besoin de leur apporter du bien-être.
Donc, on n'oublie pas. Voilà. Si vous voulez donner un petit coup de pouce, des fois même financièrement, je sais que c'est difficile et tout, vous n'hésitez pas, et que vous voulez un petit peu améliorer le karma, il y a la Ligue pour le cancer qui est là pour aider nos malades sur place. Janine, merci beaucoup, ce fut un moment fort agréable.
Fantastique, dirais-je.
Moi, je dis rendez-vous, alors pas lundi prochain, parce que lundi prochain, après cette saison schizophrénique, où j'ai passé.
Donc, je vous attends le 4 novembre.
Le 4 novembre, je serai là. Et d'ailleurs, Nagui, tu pourras me dénoncer sur les réseaux sociaux si tu
on
me
va en parler,
vois
ouais.
monter à la radio avec une cigarette au coin du bec.
Je te prends en photo.
Il ne fume pas, France.
Si je te vois avec une cigarette, je te prends en photo et je l'envoie à Janine.
Ah là là, tu me mets
là. C'est la balance.
Donc lundi prochain, on est le combien lundi prochain le premier ou le 2, c'est ça, c'est un truc
quelque chose comme ça.
Comme ça,
oui. Attends, je vais vérifier. Octobre, novembre. Nous serons le premier.
Ouais, on sera le premier. Donc, il n'y aura pas d'émission le 1er novembre.
Hein. Ouais. Dans deux semaines, on se retrouve.
On se retrouve tous les deux dans deux semaines. L'invité. Je te dis pas, mais
c'est les vacances
petit cadeau.
Il parle bien dans le micro, François.
Petit cadeau, hein. Donc oui, c'est vrai que
Oui. Ah.
Donc petit cadeau pour du coup le 8. Donc je dis rien et je prends un peu de repos. Excusez-moi, chers auditeurs.
Vacances, j'oublie tout.
Je vous embrasse. Oui, j'ai besoin de vacances.
Ouais. Allez,
pour être bon, j'ai besoin de vacances.
Bonnes vacances.
Allez, bisous.